C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Et oui, toute l'actualité social média servie sur un podcast. Salut à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Et ce matin, pour m'accompagner, je suis avec Camille Poignant. Salut Camille, tu vas bien ?
Salut Thibaut, tout va bien. Et il s'est mis à pleuvoir à Lyon, il fait bien moins chaud qu'avant, c'est génial.
Voilà, c'était le petit point météo de ce matin. Oui, la météo nous préoccupe, hein, c'est le mois d'août et il a fait très très chaud ces derniers jours. On ne va pas faire que parler de météo aujourd'hui et j'aimerais beaucoup qu'on parle de Pinterest. Et on va parler de Pinterest, quelles sont les opportunités pour les marques. T'es utilisateur toi Camille de Pinterest ?
Alors moi j'adore Pinterest, depuis quasiment les tout débuts de Pinterest, je me suis fait des petits tableaux et j'ai récupéré plein d'images. Au début j'y voyais pas une vraie utilité mais j'adorais vraiment collectionner des images.
Oui, donc Pinterest, c'est vrai que c'est un réseau social qui existe maintenant depuis longtemps. On se demandait où il en était exactement. Il semblerait qu'ils sont en très bonne santé, Pinterest, actuellement. Il y a une grosse croissance d'utilisateurs ces dernières années sur la plateforme. Et puis, Pinterest a un positionnement qui est différent des autres plateformes sociales. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, avec notamment, il se positionne comme étant un outil vraiment efficace de drive to web et de drive to store pour les marques. Donc on va décrypter tout ça ensemble. Camille, peut-être quelques chiffres sur Pinterest.
Je peux vous donner quelques chiffres à la volée. Pinterest, c'est 200 millions d'utilisateurs actifs par mois. C'est 30% de plus qu'en 2016. Il y a eu une importante levée de fonds en 2017 qui en fait la 9e start-up au monde entre WeWork qui est du coworking et SpaceX, les petits nouveaux du vol spatial. Plus de 100 milliards d'épingles sur la plateforme, plus de 2 millions de requêtes chaque mois, 16 minutes en moyenne par utilisateur.
Oui, voilà, et spécifiquement sur la France, il faut se dire que c'est 3 millions d'utilisateurs actifs chaque mois en France pour Pinterest. Ça, c'est les utilisateurs actifs, mais aussi il faut se dire qu'il y a 5,8 millions d'internautes qui vont sur le site chaque mois, donc ils sont utilisateurs de la plateforme, mais ils ne sont pas inscrits à la plateforme. Ce qui, moi, m'intéresse vraiment avec Pinterest, c'est ce qui en fait son originalité, c'est son positionnement. On peut dire que Pinterest a une identité qui est un peu à contre-courant des autres plateformes sociales. D'ailleurs, Pinterest dit qu'il n'est pas un réseau social. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Le service dit que j'ai quelques blocs de citations qu'on vous mettra en résumé de ce podcast. Pinterest est une expérience personnelle et non sociale. C'est un endroit où les utilisateurs viennent s'inspirer. En gros, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le réseau nous dit qu'on ne vient pas sur la plateforme Pinterest pour se connecter avec des amis. Ce n'est pas une plateforme sur laquelle le contenu est généré par les utilisateurs. C'est ce qu'on appelle le user-generated content. Et on verra que ce sont vraiment les marques qui sont acteurs de la création de contenu sur la plateforme. Et on arrive sur Pinterest avec des projets d'avenir. Donc tout ça pour dire que Pinterest dit « nous ne sommes pas un réseau social ».
Alors en effet, il y a 2/3 des contenus qui sont générés par des marques, qui sont des contenus de marques. Je suis un peu sceptique, je pense que c'est l'image qu'ils veulent donner, le fait qu'ils ne sont pas un réseau social. Il y a tous les outils du réseau social, mais c'est vrai que c'est essentiellement une source d'inspiration pour tout le monde.
Oui, voilà, donc c'est un positionnement, je trouve que c'est un positionnement très malin de la part de Pinterest qui s'est dit on va avoir du mal à aller batailler avec Facebook, Instagram, Twitter, même si, alors tiens, intéressant en termes de chiffres, je crois que Pinterest est au-dessus en termes d'utilisateurs que Twitter, hein, donc on voit que c'est un réseau social qui se porte très bien. Donc ce positionnement à contre-courant, l'idée de Pinterest, c'est de dire nous, on accompagne nos visiteurs dans des projets quotidiens et avec un gros angle qui est de dire nous, on les amène à passer de l'inspiration à l'action. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Drive to Web et de Drive to Store. La plateforme, elle est vraiment conçue pour aller jusqu'à l'action, c'est-à-dire l'acte d'achat. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a noté, c'est sur la chaîne YouTube de Pinterest, la signature qu'ils ont en couverture, c'est « Découvrez de bonnes idées pour vos projets et centres d'intérêt ». Donc vraiment, l'idée, c'est Pinterest est une plateforme de découverte.
Tu parlais d'achats, j'ai quelques petits chiffres concernant les achats. Donc là, c'est mondial, 55% des inscrits utilisent Pinterest pour effectuer des achats, contre par exemple seulement 12% sur Facebook et Instagram. 87% des utilisateurs de Pinterest ont déjà acheté quelque chose qu'ils avaient vu sur la plateforme. 61% des utilisateurs ont découvert de nouveaux produits et marques via les Promoted Pins. C'est donc ces posts sponsorisés qui vous emmènent derrière directement sur un produit.
Voilà, le gros avantage de Pinterest par rapport à d'autres plateformes sociales, c'est que c'est aujourd'hui la plateforme de social shopping par excellence. Souvenez-vous, il y a quelques podcasts en arrière, on a parlé de Instagram shopping et donc de social shopping. Ben voilà, Pinterest, on est au cœur de l'expérience sur Pinterest avec... Effectivement, des chiffres qui sont assez probants. Hein. Tu disais 55% des inscrits utilisent Pinterest pour effectuer des achats et en comparaison, effectivement, 12% sur Facebook et Pinterest. Donc, c'est assez probant et ça veut dire surtout que les utilisateurs qui sont sur Pinterest, ils veulent acheter en passant par Pinterest des produits qui leur plaisent.
Je me rappelle encore il y a 8 ou 9 ans quand j'utilisais Pinterest au tout début, on va dire que c'est sorti en France, on faisait notre petite vie, on collectait nos images, on était plusieurs amis à faire ça et notamment des agences web aussi qui s'en servaient et tout le monde s'est mis un peu à grogner quand on a dit il va y avoir de la publicité sur Pinterest, des posts sponsorisés et en fait on voit qu'aujourd'hui ils s'en sortent très bien là-dessus.
Oui, on voit surtout que le contenu hein, de la plateforme, à la différence d'Instagram, hein, où le contenu est quasiment 100% user-generated content, la plateforme Pinterest, elle, le contenu, tu l'as dit tout à l'heure, 75% du contenu provient des marques et des médias. Donc, c'est vraiment énorme et c'est eux qui génèrent le contenu qui est sur la plateforme avec vraiment l'objectif de driver du trafic vers une boutique en ligne ou vers un site web. J'ai quelques datas intéressantes. On parle de 1 million d'entreprises qui sont aujourd'hui présentes sur la plateforme. Et le chiffre un petit peu plus étonnant et qui devrait, nous faire réfléchir, c'est de dire que 30% des marketeurs seulement intègrent Pinterest à leur stratégie. Je pense que là-dessus, il y aura vraisemblablement, c'est un chiffre qui va évoluer. Ce qui est intéressant aussi au niveau de Pinterest, c'est évidemment avec une plateforme qui est, drivée par le contenu des marques, forcément, ils ont proposé et conçu des outils forts pour les marques avec une promesse qui est de toucher les gens au moment où ils prennent leurs décisions. Et ça, c'est vraiment une des grosses forces de Pinterest par rapport à Instagram ou à Facebook, où là, on va être beaucoup plus... En gros, on va venir perturber, entre guillemets, hein, la navigation. Il va falloir qu'on suscite l'intérêt de suffisamment forte d'un internaute sur Facebook et Instagram au moment où il n'a pas vraiment envie d'être sollicité. Et là, la promesse de Pinterest, c'est de dire, mais en fait, si, sur notre plateforme, justement, nos utilisateurs, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à découvrir des choses. Donc, n'hésitez pas à leur proposer des contenus. Et pour ça, donc, nous, on est la plateforme qui permet de toucher les gens quand ils sont au moment d'une prise de décision. Tu as donné tout à l'heure des chiffres du nombre de personnes qui ont acheté depuis Pinterest. Je ne me souviens plus le chiffre, on va le retrouver. C'était 55% des utilisateurs de Pinterest effectuent des achats depuis la plateforme. Donc, c'est énorme.
Et quand tu parles de ce moment d'achat, oui, c'est vrai que tous les posts sponsorisés tombent vraiment au bon moment. Je pense que là, ils ont une grosse machine derrière qui fait que c'est jamais gênant, c'est jamais agressif. Quand tu tapes des contenus sur une marque ou le nom d'une marque, je tapais hier Coca-Cola par exemple, tu trouves que du contenu Coca-Cola, même s'il provient pas forcément d'eux. Donc c'est toujours bien dispatché. Après, j'ai trouvé une autre petite phrase qui m'a fait marrer aussi. On découvre que Pinterest est une plateforme d'inspiration, comme tu disais, mais aussi une plateforme de planification. J'ai vu que 47% des utilisateurs de Pinterest s'inspiraient de la plateforme pour planifier un événement. C'est-à-dire, ils vont planifier une partie de leur mariage, par exemple la déco, ou planifier un voyage. Ils vont taper Norvège, ils vont trouver les photos de Norvège, et à partir de là, ils vont faire leur parcours, leur planning.
Écoute, moi, dans mon cas, j'ai quasiment planifié, comme tu dis, la rénovation de notre appartement avec Pinterest. Donc, c'est vrai qu'on voit que c'est, ben, et ils ont raison, hein, c'est une plateforme qui vient s'inscrire à un moment de projet. Et donc, c'est là où on est finalement le plus proche d'une décision d'acte d'achat ou d'une prise de décision. Ça, c'est vraiment leur grande force. Sur les, on pour reparler des outils à disposition des marques, évidemment, il y a la possibilité de passer son compte Pinterest en compte professionnel. Donc ça, ça permet de linker notamment son site internet avec la plateforme et d'obtenir des statistiques assez poussées. Je pense que dans un prochain podcast, on pourra sans doute revenir sur ces outils-là qui sont extrêmement intéressants. On peut voir quelle page ou quel contenu sur Pinterest envoie le plus de trafic sur quelle page et aussi adapter derrière ses contenus web en fonction de sa stratégie Pinterest. Il y a quelques outils qui me semblent vachement intéressants. Les Rich Pins, donc c'est des épingles enrichi, si je francise. Donc là, ça permet d'inclure des informations supplémentaires sur les pins Pinterest. Donc concrètement, je lis mon site avec la plateforme, j'insère un certain nombre de métadonnées issues de mon site dans Pinterest. Alors ça permet par exemple d'avoir les prix des produits, par exemple le prix de mes produits directement dans Pinterest. Ça permet d'avoir les ingrédients d'une recette que je publierai ou des contenus méta issus de mes publications articles. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que si 75% du contenu disponible vient des marques, Pinterest a mis en place des outils qui permettent aux marques de publier de façon plus riche et plus enrichie et de faire vraiment en sorte de, là aussi, se rapprocher de l'acte d'achat. Parce que dans un Rich Pins, le bouton de call to action, le petit bouton qui vient sur l'épingle Pinterest s'adapte, hein, donc on va avoir un bouton qui va dire acheter en ligne, on va avoir un bouton qui va dire lire, on va avoir un bouton qui va dire voir cette recette, etc.
Et oui, donc sur ces Rich Pins, en fait, c'est un principe de référencement du web, c'est vraiment que tu peux mettre toutes les informations nécessaires, que ce soit un post sponsorisé ou non. Donc, ils ont tout compris, ils se sont fait leur référencement en interne. Et effectivement, si c'est pas un post sponsorisé, les personnes peuvent quand même faire la démarche d'acheter parce qu'ils ont toutes les informations juste derrière.
Voilà, un autre outil à disposition des marques que moi je trouve vraiment excellent. On avait encore une fois parlé d'Instagram Shopping l'autre jour. C'est très très proche. Ça s'appelle Shop the Look. Shop the Look, ça veut dire quoi ? Ça veut dire acheter ce look. Et ça permet d'avoir, vous savez, une épingle avec un look complet, une personne totalement habillée par exemple. Et on va avoir la possibilité d'ajouter un certain nombre de petits indicateurs sur cette image et permettre aux utilisateurs de la plateforme de retrouver le détail de tous les produits contenus sur l'image et d'aller directement les acheter sur le site web. Donc ça, c'est une fonctionnalité que je trouve vraiment bien fichue. Ça ressemble vachement à Instagram Shopping, sauf que là, bah, peut-être ce qu'il faut étudier, c'est que il semblerait qu'on soit dans un moment de navigation de l'internaute qui soit plus proche de l'acte d'achat, et ça c'est très intéressant. Le troisième outil qui me semble très intéressant aussi à destination des marques, ce sont les pin codes. Les pin codes, ce sont ces espèces de QR codes à la sauce Pinterest. Ça part d'un point de départ qui est l'appareil photo interne à l'application. Sur Pinterest, vous avez une petite application de photo qui vous permet de prendre en photo un objet qui vous plaît et puis d'aller voir dans la plateforme les pins qui seraient proches visuellement, un petit peu comme sur Google Images. Hein, vous avez la possibilité d'avoir comme ça des images proches. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé cet outil d'appareils photo dans Pinterest.
Alors pas dans Pinterest, mais Google Images, comme tu le dis, je l'ai déjà utilisé. Je crois d'ailleurs que ça a un petit peu disparu ce fonctionnement, mais dans Pinterest, je vois que ça marche toujours et c'est une très bonne idée.
Voilà, donc c'est extrêmement pratique. Et là, pin code, ça va un cran au-dessus et sa destination des marques. Ça vous permet de faire du offline en gros, d'avoir une espèce de QR code à la sauce Pinterest qui est flashable depuis l'application et qui renvoie vers un board sur Pinterest ou vers une épingle dédiée ou vers votre compte, etc. Donc ça, bon, je suis un petit peu sceptique sur la manière dont ça peut se mettre en place concrètement. Hein. On sait sait que dès qu'on doit, on sait déjà que les QR codes avaient été compliqués et émergent assez peu. Les PIN codes, je ne sais pas trop, mais en tout cas, le format est intéressant. Voilà pour Pinterest. Concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est Pinterest, c'est vraiment la plateforme d'inspiration. C'est la plateforme aujourd'hui du social shopping avec un gros axe qui est le drive to web et le drive to store. Je serais très intéressé, et on espère vous aussi, qu'on revienne sur justement les stratégies vraiment concrètes pour les marques sur comment faire en sorte de générer du trafic et générer potentiellement même de la vente depuis Pinterest. Comment utiliser cette plateforme au mieux? On reviendra avec quelques astuces. D'ici là, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous souhaite une très bonne journée et surtout, on vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux.
@supernatif sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Et vous pouvez aussi retrouver notre podcast sur Apple Podcasts et sur
Spotify et Deezer, bien sûr. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à demain.
Ciao.